Salut les sportifs, c'est Hermano. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on commence le podcast comme ça aujourd'hui. Bah, juste avant de lancer un nouvel épisode, j'aimerais te parler d'un truc. Le 13 mai prochain, je serai sur la plage de Bray-Dunes, près de Dunkerque, et je m'élancerai en solo pour une traversée de la France en courant et en nageant. 1 500 km en 30 jours, à raison de 50 km de course et de 2 heures de nage au quotidien. Je le fais pour moi, mais aussi pour mettre en lumière deux assos. Imagine for Margot et une bouteille à la mer. Aujourd'hui, la prépa avance vite et bien, mais c'est franchement pas facile de courir plus de 150 km par semaine tout en alliant un job à temps plein et une famille à chérir. Et justement, ce qui m'aide à encaisser la charge physique, à mieux me comprendre, à mieux prioriser et à mieux vivre la difficulté de ces situations, c'est une rencontre que j'ai faite au détour de l'enregistrement d'un épisode de podcast. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Mouezza, qui est depuis devenu mon préparateur mental. Pour moi, avant, la prépa mentale, ça relevait un peu du mystique, de l'ésotérique, du trifouillage de cerveau. Mais plus on avance avec Marc, et plus j'en découvre les bienfaits. On travaille sur les valeurs, les besoins, l'équilibre et la définition de mes objectifs, qui me permettent de progresser chaque jour et pas uniquement dans le domaine sportif. Je suis aussi devenu un meilleur professionnel, un meilleur papa et un meilleur époux. Alors, chère auditrice, cher auditeur, si tu veux en savoir plus sur Marc, je t'invite à aller faire un tour sur agri2pa.me/mrc. Tu pourras découvrir le portrait audio de Marc et tous les moyens de le contacter de ma part pour tester son approche. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode.
Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de la saison 4 du podcast, la saison qui file à une vitesse phénoménale, on dirait un vélo de chrono qui est lancé à pleine allure, là on est déjà à un nombre d'épisodes assez impressionnant cette saison, et puis on continue cette saison, et aujourd'hui on a un épisode de la saison régulière avec Hermano que vous retrouvez à mes côtés pour animer cet épisode. Hermano, bienvenue.
Merci Greg, merci de m'accueillir dans notre podcast.
Oui, écoute, tu fais partie du podcast et voilà, je suis très très content d'être avec toi pour ce nouvel épisode et on accueille une invitée aujourd'hui, une invitée qui va nous parler de sa carrière sportive pro, qui est une cycliste professionnelle, qui va nous apporter un témoignage sur son parcours de vie. J'ai envie de dire que son parcours de vie, il est un petit peu hors du commun, qu'il est un petit peu particulier, mais elle va peut-être nous dire que malheureusement il l'est pas tant que ça et puis que il y a des choses qu'on ne dit pas forcément au grand public par rapport à la condition des femmes dans le cyclisme. Cette invitée, c'est Marion Sicot. Marion, bienvenue dans le podcast.
Merci.
Donc peut-être que je pourrais continuer à présenter la cycliste professionnelle que tu es, mais tu le feras probablement beaucoup mieux que moi, donc je vais te laisser le micro pour te présenter aux auditrices et aux auditeurs du podcast.
Bonjour à tous, moi c'est Marion Sicot, donc j'ai bientôt 30 ans. Donc j'ai commencé le vélo à l'âge de 11 ans totalement par hasard et avant j'avais fait du judo. Puis j'ai été dans un sport études à partir de l'âge de 15 ans, j'ai gravi les échelons et à partir de 17 ans j'ai fait mes premières sélections en équipe de France. Donc j'ai notamment remporté la Coupe de France Espoir du classement général en 2013, terminé troisième du championnat de France aussi en Espoir. Puis comme on va dire tout cycliste un petit peu, on rêve forcément de passer professionnel. Et j'ai réussi, on va dire, à passer le cap après, on va dire, deux essais un peu infructueux en 2015 et l'année d'après, j'ai réussi à passer du coup cycliste professionnel dans une équipe belge. Donc en 2018 et 2019, donc je dirais cycliste professionnel entre guillemets, puisque je n'étais pas rémunérée. Donc et moi aussi, je payais en plus mes frais de déplacement. Donc, on va dire que le vélo à haut niveau me coûtait de l'argent. Mais après, c'était, on va dire, un peu une obsession, entre guillemets, de vouloir passer à tout prix cycliste professionnel. Et voilà, après 2018, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup appris et j'ai fait mon travail d'équipière. Parce que j'étais cycliste professionnel, mais je ne suis pas une championne du monde. J'étais dans des top 30 à 60, on va dire, sur des Coupes du Monde. Donc et puis fin 2018, pour la signature de mon nouveau contrat en 2019, malheureusement, on va dire que mon directeur sportif m'a demandé des photos de moi dénudée pour signer le contrat. Et chose que j'ai acceptée parce que bah, je voulais vraiment m'obstiner à passer cycliste professionnel, enfin à continuer du moins de rester cycliste professionnel. Et puis après, bah, s'ensuit, on va dire, un cheminement qui va vers le creux de la vague, je dirais. Et du coup, bah, je suis devenue un petit peu sous son emprise. J'étais vraiment, bah, je prenais plus de plaisir sur le vélo. Voilà, des fois, je pleurais sur mon vélo ou je mettais des heures à aller à l'entraînement. Et puis, bah, pour sortir de cette emprise, voilà, je me suis dit, peut-être en obtenant un gros résultat, il me laissera tranquille. Et à ce moment-là, voilà, j'ai voulu me doper en achetant de l'EPO sur Internet. Et puis, bah, voilà, j'ai fait une prise le jour de mon anniversaire, le 24 juin 2019. Et voilà, ça en suit, bah, forcément, hein, sans protocole, voilà, en n'y connaissant pas grand-chose, je me suis fait attraper au championnat de France, du coup. Et donc, contrôle positif, du coup, annoncé le 18 juillet 2019 à la course by le Tour, en même temps que le Tour de France masculin. Et donc, bah, s'ensuit une suspension. Et puis, bah, voilà, après, on va dire des mois un petit peu dans le noir. Et puis après, une reconstruction au fur et à mesure, avec bah, notamment un livre et puis une reprise de compétition dans le triathlon ou dans des défis un peu plus personnels d'ultra en vélo.
Donc effectivement, tu le résumes quasiment tout ce qu'on lit dans le livre. Hein, tu l'as dit, donc dans le cheminement de tous ces événements, à la fin, tu as décidé de coucher tout ça sur le papier, d'écrire un livre. Et en fait, c'est un petit peu comme ça, moi, que j'ai connu ton histoire. C'est en lisant ton livre entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022. J'ai trouvé ce livre extrêmement touchant. Tu parles des choses telles qu'elles sont, en fait. Et voilà, on se rend compte de but en blanc, en fait, de la situation qui n'est pas forcément idéale des femmes dans le cyclisme. Alors, c'est vrai qu'avec le regard que je peux avoir sur le monde du cyclisme professionnel, pour moi, il y a plein de choses qui sont tombées, qui se sont écroulées quand j'ai lu ce livre. La première, c'est effectivement quand on me parlait de cyclistes professionnels, pour moi, c'est des gens dont c'est le métier, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont rémunérés pour le faire. Et voilà, la première chose qui m'a fait tomber des nues en lisant ton livre, c'est que non seulement tu ne touchais pas de salaire ou extrêmement peu, mais en plus, tu payais toi-même tous tes déplacements, tout ton matériel, tu payais tes propres massages, enfin ta récupération, etc. Tu devais aller au départ d'une course, c'est toi qui devais payer le déplacement pour y aller. Limite, tu devais payer l'inscription pour y aller, quoi. Donc voilà, ça c'est la première grosse surprise. Et puis la deuxième, c'est la condition de précarité des femmes dans certaines équipes cyclistes, et en particulier, on a l'impression, en tout cas à travers ton histoire, qu'il y a des directeurs sportifs qui exploitent en fait cette situation où il y a des filles qui ont très envie d'aller dans le cyclisme pro. Tu le dis, c'est une passion, c'est un rêve d'aller faire ça, et toi, tu avais le potentiel de le faire, donc tu touchais cet espoir du bout des doigts, donc il y a probablement un rêve là-dedans, et des gens qui, manifestement, exploite ça pour te mettre dans une situation qui est impossible, en fait.
Oui, voilà. Alors, en principe, quand on est cycliste professionnel, enfin, moi, du coup, on va dire entre guillemets à mon époque 2018-2019, voilà, donc le cyclisme, on n'était pas forcément rémunéré. Maintenant, ça a un petit peu évolué. Il y a des équipes professionnelles qui se sont mis un petit peu en place avec, par exemple, la Cofidis, Arkea ou autre. Mais c'est avec, en fait, au final, les équipes masculines qu'il y a des équipes féminines qui se mettent un petit peu en place. Après, elles ne sont pas toutes rémunérées, mais je pense qu'elles sont dans de meilleures dispositions et ça va vers le mieux. Mais on va dire, moi, voilà, en 2018-2019, voilà, c'était, j'avais pas de rémunération. Il y avait très peu de Françaises qui avaient des rémunérations en cycliste professionnel, moins de 10 en France. Et voilà, certaines voilà, de mon équipe touchaient, mais c'était genre 200 euros ou 300 euros par mois, donc ça fait pas vivre, clairement. Et moi, en plus, donc moi, j'avais un contrat secret, parce que quand on est dans une équipe professionnelle, normalement, nos frais de déplacement sont, voilà, sont pris en charge par l'équipe. Et moi, en gros, bah voilà, au début, il m'avait dit en 2018, voilà, tu as tout approuvé, donc est-ce que tu acceptes de payer tes frais de déplacement parce que je te prends en plus? Et donc, c'est vrai que voilà, bon, bah, moi, je travaillais à mi-temps pour être cycliste professionnel. Du coup, bah, forcément, hein, je gagnais que 700 euros par mois. Donc, clairement, je ne pouvais pas non plus payer mes frais de déplacement. Donc, j'avais demandé à mes parents s'ils pouvaient m'aider financièrement. Et donc, je me suis dit, bah voilà, 2018, j'ai tout approuvé et peut-être qu'en 2019, justement, je ne paierai plus mes frais de déplacement. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, puis bah, ça s'est empiré au fur et à mesure, quoi.
Ouais. Donc en plus de ça, le contrat que tu as, il est non conforme par rapport au statut de l'UCI, en fait.
C'est ça, en gros, normalement, voilà, quand on est une équipe professionnelle, on n'est pas obligé d'être rémunéré, mais par contre, on doit avoir aucun frais en termes de déplacement, c'est-à-dire bah, billets d'avion, train, voilà, ou, enfin, tous les déplacements doivent être pris en charge comme les hôtels.
Ok, et puis en fait, toi, tu t'es rendu compte au fur et à mesure de ton évolution dans cette équipe que tu étais probablement la seule ou une des seules à être dans cette situation.
Oui, je pense, ouais, alors je peux pas l'affirmer à 100%, mais je pense clairement que j'étais quasiment la seule. Enfin, en tout cas, les autres Françaises, elles, voilà, à donner régulièrement leurs frais de déplacement au directeur sportif. Et bah, moi, voilà, je me taisais et je me disais, mais en fait, pourquoi moi je dois payer mes frais de déplacement au final, parce que j'étais pas moins bonne qu'elle, clairement. Et c'est vrai qu'au final, je pense que bah, voilà, j'étais vraiment trop dans l'obsession de mon sport et à accepter beaucoup de choses et à dire oui. Et puis, bah, au final, c'est ce qui a entraîné un petit peu ma chute.
Ouais, effectivement. Donc ça, tout ça, on le découvre hein, au fur et à mesure de l'histoire. Donc au début, t'es dans des équipes qui sont peut-être de moindre importance, mais dans lesquelles ça se passe mieux, d'un point de vue relationnel, etc. Mais là, non seulement il y a cette situation financière qui fait que bah, pour pouvoir continuer à évoluer dans le cyclisme de haut niveau, tu dois toi-même payer tes frais de déplacement. Mais tu l'as dit, en plus, il y a des conditions qui sont absolument inacceptables en dehors de ça pour ta présence dans cette équipe. Ce directeur sportif qui te demande par exemple des photos de toi dénudée.
Oui, voilà, c'était la condition après pour re-signer un contrat en 2019 que chaque lundi j'envoie des photos de moi dénudée devant, derrière. Voilà, et puis après, bah, chaque lundi on va dire que je devais m'exécuter et quand je le faisais pas, bah, j'avais un rappel à l'ordre. Et après, c'était aussi bah, notamment pour participer aux compétitions, quoi. Donc forcément, bah, c'était très compliqué. Puis une fois que, bah, entre guillemets, la machine elle est enroulée, on ne peut plus revenir en arrière. Et puis après, on a toujours peur aussi de se demander bah, qu'est-ce qui va faire des photos, avec cette crainte que ça apparaisse aussi sur les réseaux. Et puis bah, après, on a la perte de la confiance en soi. Puis on va dire qu'on se mure dans le silence. Et puis bah, on essaye d'avancer chaque jour, mais au final, bah, on prend plus de plaisir sur notre passion. Et c'est vrai que bah, ça gâche notre plaisir. Et clairement, en 2019, quand j'étais sur la ligne de départ de certaines Coupes du Monde, au final, bah, je prenais plus ce plaisir que j'avais auparavant, quoi. Mmh.
Donc, on découvre au fur et à mesure qu'on lit le livre, bah, tu donnes des informations assez précises, hein, là, un certain nombre de watts et puis des niveaux de performance. Et puis moi, je me suis énormément en fait reconnu dans une partie de ton profil parce que tu nous parles très ouvertement et avec énormément de sincérité de ta manière de faire face à l'alimentation. Et c'est vrai que pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et moi, j'arrive à le comprendre tout à fait parce que je suis un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire que au moment où j'approche du début de la préparation de la saison, je me dis mais vraiment cet hiver t'as fait vraiment n'importe quoi, il va falloir te mettre à t'alimenter correctement et puis à retrouver un certain niveau de forme physique parce que là tu ressembles plus à rien, t'as pris du poids, il y a que tu mets le maillot de cyclisme, il y a tout qui déborde et tout, et c'est enfin voilà. Et j'ai beau me dire ça à chaque début de saison, chaque fin de saison c'est la même chose, mais surtout au début de la saison, bah j'arrive à faire attention 2-3 jours et puis d'un coup bah, c'est gros craquage et puis ça recommence et donc du coup j'arrive vraiment pas à réguler mon poids. Et toi tu nous parles un petit peu de la même chose. Au début en fait t'as une relation avec ton corps qui est pas forcément super comment dire moi je comprends tout à fait bien la situation parce que parfois, au début de la saison ou même pendant, j'ai de la peine à me regarder dans le miroir en disant waouh, qu'est-ce que. Voilà, on voit que tu fais du sport, etc. Et donc, un petit peu, tu as aussi une relation un peu de ce type-là avec ton corps. Ça rend les choses encore plus difficiles quand on te demande des photos dénudées et qu'on te dit justement le prétexte de ces photos, c'est pour contrôler ton poids.
Oui, voilà, c'est vrai que le poids, c'est mon gros point faible, hein, clairement. Je fais souvent le yo-yo l'hiver, voilà, je prends entre 8 et 10 kilos, ce qui est énorme pour un sportif et notamment un sportif de haut niveau parce qu'après bah, c'est la chasse aux kilos et donc c'est des restrictions, c'est des régimes, ça fatigue le corps et puis aussi psychologiquement c'est très compliqué, hein, se coucher sans cesse avec la faim ou aller tout le temps à lutter pour essayer de faire le poids, surtout que moi j'étais bah, de base grimpeuse donc vraiment bah, on va dire chaque gramme est important clairement. Et voilà, et c'est vrai que bah, ce gros point faible, bah, mon directeur sportif l'a vu puisque bah, dans l'année 2018, il a bien vu entre guillemets que début d'année, voilà, j'étais un petit peu en surpoids et enfin pour en tant que grimpeuse, je dirais. Et puis après, bah, au fur et à mesure, voilà, que j'avais perdu beaucoup de poids, et que j'étais beaucoup plus performante. Et voilà, du coup, bah, il m'a dit que c'était pour m'aider de base les photos dénudées pour, on va dire, contrôler mon poids et essayer que je prenne le moins de poids possible. Alors qu'au final, il m'a jamais demandé où en était mon poids, clairement, quoi. Donc il a vu, on va dire, la faille pour que justement il puisse me demander ces photos.
Puis alors, ouais, effectivement, tu le disais, hein, une fois que la porte est ouverte, c'est difficile de s'en sortir. Donc, tu es dans une situation où tu te sens un petit peu mise à côté par rapport à tes coéquipières d'équipe. En même temps, il y a cette espèce de pression morale de ton directeur sportif. Il y a toute une ambiance qui fait que, bah, tu le dis, tu n'as plus de plaisir sur le vélo, tu n'as plus de plaisir sur les courses. Toi, tu es en train de vivre quelque chose qui se mélange entre un cauchemar et un rêve. C'est-à-dire que tu es cycliste pro dans le sens où tu participes à des compétitions de niveau mondial. Mais d'un autre côté, tu n'y trouves plus aucun plaisir et il y a vraiment voilà, une ambiance pourrie, on va le dire, hein, au sein de l'équipe. Je crois qu'avec les autres filles de l'équipe, ça ne se passe pas très très bien. Donc à ce moment-là, il n'y a pas un moment où tu te dis « maintenant, il faut que j'arrête tout ça et que je repose les choses à plat ».
On va dire que voilà, j'ai toujours vécu un petit peu pour le vélo et c'est vrai que pour moi, Marion la femme, elle n'existait pas vraiment avant et j'existais vraiment plus en tant que Marion la cycliste, c'est-à-dire que bah, j'avais fait mes études pour le vélo, clairement, j'avais fait une licence STAPS, puis après, voilà, j'ai passé un DGEPS cyclisme traditionnel pour devenir entraîneur et on va dire que j'ai toujours fait en fonction de ma pratique sportive, quoi. Et donc le vélo c'était vraiment ma priorité, d'ailleurs mes copains à chaque fois ils se lassaient puisque entre le vélo et eux je choisissais le vélo clairement et du coup voilà c'était vraiment j'étais trop focalisée et c'était une obsession même si je savais que bah, ça allait pas, bah, je continuais quand même parce que je me disais mais si j'arrête le vélo en gros j'existe plus. Et c'est vrai que j'arrivais pas à m'arrêter par moi-même et à m'obstiner même si j'étais pas heureuse, c'était vraiment me dire bah ouais mais après tu vas faire quoi de ta vie en fait. Et alors qu'au final, voilà, j'avais d'autres choses et autres, mais voilà, c'était comme si, je dirais, j'avais des œillères, clairement, et j'avançais coûte que coûte, alors que je savais très bien que ça allait pas, mais voilà, j'arrivais pas à arrêter par moi-même, et puis bah, j'arrivais pas à communiquer avec mes proches pour dire que ça allait pas, quoi.
C'est super intéressant ce que tu dis parce que au-delà de la sphère sportive en fait, et c'est vrai que c'est des sujets qu'on n'a pas abordés encore sur ce podcast-là puisqu'en général on aborde le thème du sport, en particulier du triathlon ou du sport d'endurance et de la technique qui va avec le sport, mais pas trop cet état d'esprit de harcèlement, enfin pas cet état d'esprit, cet état de harcèlement ou cet état de difficulté à parler des choses et en tout cas moi ça me fait du bien de l'entendre et de parler avec des gens parce que souvent on se demande toujours, enfin on se demande, on écoute les infos, on lit les journaux, on regarde les infos un peu partout et on se demande un petit peu comment est-ce que certaines personnes peuvent se laisser enfermer, que ce soit, je sais pas, des personnes qui sont battues, que ce soit des personnes qui sont violentées sexuellement, qui sont harcelées. Et au final, ce que tu nous expliques très bien, c'est que bah, tu ouvres la porte une fois à ton bourreau parce que tu as un rêve et que tu veux l'atteindre et peut-être tu te dis ce sera une fois où je vais, c'est pas question d'ouvrir la porte, mais je vais me laisser avoir une fois, et finalement après t'arrives pas à te sortir de cet engrenage.
Oui, c'est ça, puis voilà, il avait vu aussi forcément que j'étais quand même assez isolée, voilà, j'étais célibataire, j'avais un appartement, je vivais seule, enfin voilà, et puis le vélo c'est assez chronophage, on s'entraîne beaucoup toute seule au final. Moi voilà, j'allais à mes entraînements et après bon bah j'allais travailler, puis bon bah voilà, c'est une routine, et c'est vrai que bah quand je rentrais le soir, bah j'étais, on va dire, seule dans mon appartement, et du coup bah forcément entre guillemets, je pense qu'on est plus facilement vulnérable, je dirais, que voilà, si voilà, on a un copain ou autre. Et moi c'est vrai que j'avais, enfin, je m'étais trop focalisée au final sur le vélo, et puis bah rien à côté, et ce qui fait que bah c'était très compliqué, et surtout bah forcément quand ça allait pas, bah voilà, c'était bon, j'arrivais pas à dire stop, et puis on va ailleurs, quoi.
Donc là, en fait, à ce moment-là, toi, la seule issue que tu vois à cette situation qui te pèse et qui te convient plus, c'est l'amélioration de tes performances pour montrer à ce directeur sportif que tu vaux quelque chose pour prendre une place importante dans l'équipe.
Oui, voilà, on va dire que fin avril, en fait, j'ai arrêté les photos dénudées. Voilà, il y avait les classiques ardennaises, hein, qu'on appelle Liège, La Flèche, l'Amstel, que j'avais faites. Et puis, je m'étais dit, c'est bon, voilà, c'était mes objectifs. Moi, j'en peux plus, clairement, j'arrête, ça va pas. Et puis, tant pis, au final, s'il me prend plus, c'est pas grave, je terminerai ma saison comme ça. Et en fait, je me disais, bon, bah, l'année prochaine, je retrouverai une autre équipe. Et puis voilà, parce que c'est très compliqué de partir d'une équipe, entre guillemets, en milieu de saison. Ça veut dire que c'est nous, entre guillemets, qui sommes en tort. Et après, c'est hyper mal vu pour retrouver quelque chose derrière, quoi. Et voilà, donc je m'étais dit, bon, bah, tant pis s'il me prend plus. Mais au final, il a continué à me prendre et il m'a fait attendre des journées à l'aéroport où des fois, j'étais pas massée sur certaines courses. Et là, ça a été plus, on va dire, un harcèlement, je dirais, moral. Et clairement, là, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, je vais jamais arriver à sortir de là. Et voilà, j'ai fait, bah, on va dire, la plus grosse bêtise de ma vie, je pense, à l'heure actuelle, en tout cas. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, bah, voilà, je vais acheter un produit dopant et peut-être que si j'obtiens un gros résultat, notamment, il y avait les Championnats de France qui arrivaient, et bah, il me laissera tranquille parce que, voilà, un maillot bleu, blanc, rouge, voilà, ça, on va dire que, bah, ça fait parler les sponsors, c'est une image, et donc je serais peut-être tranquille. Et du coup, je demandais juste d'avoir la même place que les autres au final. Et voilà, je pensais pas, mais voilà, on va dire EPO, tout le monde en a déjà entendu parler, surtout dans le monde du vélo. Hein. Ouais, donc, ouais. En final, en quelques clics, je pensais pas que ça allait être facile, mais je me suis acheté de l'EPO en, je dirais, 4-5 minutes, quoi.
Ok, ouais, c'est troublant de facilité. Quelle réflexion il y a eu avant ? Est-ce que tu te posais la question déjà depuis plusieurs semaines ? Ou alors est-ce que c'est tout à coup tu t'es dit « bon maintenant je vais essayer ça » et puis ça c'est un truc qui s'est passé en 5 minutes ? Ou c'est une réflexion de plus longue haleine ? Ou est-ce que bah, ça... Enfin, on a enregistré il y a peu de temps un épisode sur le dopage avec un responsable de la prévention au sein de l'agence française qui nous disait c'est une idée qui traverse l'esprit de probablement... la majorité des sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, à un moment ou à un autre de leur carrière. Et il y a des moments où ils sont un peu plus vulnérables à ce genre de pensée. Et la prévention essaye de s'articuler autour de ces moments-là. Et bah, c'est vrai, je veux dire, quand on est dans un col en misère et puis qu'il y a des gens qui passent à côté tellement facilement, on se dit mais comment ils font ? On s'est entraîné comme des fous, on a passé des heures à faire du travail de côte, on a fait des heures sur le home trainer à emmener du gros parce qu'il faut travailler la force. Et puis on n'arrive toujours pas à les suivre et on se dit mais qu'est-ce que ça peut être la solution ? Et forcément, à un moment, dans l'esprit de n'importe quel cycliste ou je sais pas si je peux généraliser à ce point-là, mais en tout cas de beaucoup, c'est de se dire mais voilà, il me faudrait un petit produit qui me fasse aller 10% plus vite. Donc il y a quelque chose, je pense, qui est pas condamnable là-dedans. Par contre, on se demande tous quel est le déclencheur qui fait qu'on passe réellement à l'action et qu'est-ce qui a fait que toi un jour t'es allé sur internet et que t'as tapé EPO dans Google probablement en te disant la finalité c'est que j'en achète.
Oui, du coup, je vais rebondir là-dessus. C'est sûr que ça serait mentir de dire que j'ai jamais pensé à vouloir me doper dans ma carrière. Je dirais, des fois, on regarde et on se pose des questions sur tout le monde, j'ai envie de dire, de temps en temps. Et puis de se dire, bah oui, peut-être que ça améliorerait mes performances. Mais voilà, pour moi, le vélo, c'était quand même sacré et voilà, je voulais pas le salir, tout simplement. Et puis bah là, clairement, en 2019, c'était vraiment les montagnes russes en termes d'émotions. Et bon, bah, il y avait plus de bas que de hauts, je dirais. Et voilà, ce qui m'a fait vraiment vaciller, bah, c'est autour de Burgos, au mois de mai, où là, bah voilà, ça va pas. Donc, il y a eu les Ardennaises, j'ai repris un peu de poids. Puis, je suis vraiment pas bien autour de Burgos, quoi. Je subis totalement. Et puis, bah, je vois que j'apparais pas sur la liste de massages. Et là, bah, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je suis même pas massée. Je suis la seule pas massée de mon équipe, quoi. Il y a un problème. Et clairement, bah, je veux parler avec mon directeur sportif pour que, bah, à un moment donné, on mette les points sur les i, je vais dire, parce que du coup, je me dis, bah voilà, j'arrête les demandes de photos, donc forcément, bah, ça va être cette pression-là, et puis au final, ça va peut-être jamais s'arrêter. Et il m'écrit, repose-toi, récupère, et puis on verra demain ce que tu fais, quoi. Donc, bah moi, voilà, là, je pleure et je me dis, mais enfin, ça va jamais s'arrêter, quoi. Mmh. Et donc, bah, en rentrant du Tour de Burgos, là, oui, je commande sur Internet. Voilà, en quelques clics, et au départ je me rends pas vraiment compte que j'achète un produit dopant, c'est-à-dire que c'est encore virtuel. Alors certes, j'ai fait l'achat, mais tant que j'ai pas le colis, en fait, je suis pas encore en capacité de me dire Marion, t'as acheté un produit dopant, quoi. C'est vraiment 15 jours après, quand je reçois le colis dans mes mains, que je me dis c'est dangereux, et justement, bah, est-ce que tu vas l'utiliser? Et au final, bah, je vais mettre quelques jours à l'utiliser. Mais c'est vrai que oui, c'est quand on n'est pas bien que forcément on pense à vouloir se doper, quoi.
Ouais, parce que tu le dis très bien dans ton livre, en fait, ce colis, il reste quand même un certain temps caché chez toi, même au moment où il est arrivé. Et puis, il y a un nouveau moment où il y a un coup de moins bien et où tu te dis, ah oui, mais j'ai encore ce truc quelque part. Et c'est là que tu vas aller regarder plus en détail. C'est très impressionnant la manière dont tu l'écris dans ton livre, parce que ben, on se rend compte à quel point il y a tout plein de trucs, en fait, qui sont violents, moi, je trouve. Enfin, violents pour une personne. C'est-à-dire que tu reçois ce colis, tu sais pas exactement ce qu'il y a dedans, d'où il vient, etc. T'as commandé de l'EPO, il y a ça qui arrive. Il faut préparer ta mixture un peu toi-même. Il y a une recette de base qui est fournie dedans. Et puis ça s'injecte, quoi. C'est pas une pilule que tu dissous dans un verre d'eau pour le boire ou un truc que tu rajoutes dans tes céréales le matin. C'est une seringue. Il faut se la planter dans le corps et se l'injecter. Donc, il y a quand même un acte violent qu'on réalise quand on fait ça.
Oui, c'est sûr que bah voilà, je l'ai fait le 24 juin 2019, au final, bah, le jour de mon anniversaire. Et c'est vrai que bah, c'est quelque chose que bah, forcément, hein, voilà, j'étais mal, j'étais dans mon appartement, j'étais en surveillance de bac, donc ce n'était pas hyper intéressant. Et voilà, bah, je pense à ouvrir ce colis parce qu'on a quelques jours du championnat de France en me disant, bon, bah, peut-être que ça va marcher parce qu'au final, le PO, j'en ai déjà entendu parler et j'ai vu les performances de certains. Et c'est vrai que quand j'ouvre la boîte, bah, je suis surprise parce que je me dis, je sais que, bah, qu'il y avait une piqûre dedans, mais voilà, du coup, bah, je vois que c'est de la poudre blanche et je me dis, bah, mince, en fait, il faut distiller de l'eau, j'en ai pas chez moi, donc je vais faire bouillir de l'eau. Bah, au final, comme on fait cuire des pâtes, j'ai envie de dire, j'attends que ça se refroidisse. Enfin, que l'eau se refroidisse et puis après bon bah voilà je vais mettre dans la fiole et puis je vais essayer de me l'injecter en regardant naturellement on va dire des tutos sur YouTube pour savoir bah, comment se l'injecter en voyant que bah c'est soit la veine soit le ventre ou la fesse et je me dis oh là là mais c'est hyper compliqué et c'est vrai que bah, je choisis le ventre parce que c'est le côté plus facile, c'est aussi le côté on va dire bah le ventre avec les rondeurs etc. Et puis bah au final je vais mettre bah plus d'une demi-heure à me l'injecter en m'y reprenant à plusieurs fois parce qu'au final quand on voit les infirmières qui nous font une piqûre ça dure 10 secondes mais s'injecter soi-même quelque chose c'est vrai que c'est très compliqué hein, je vais trembler, je vais transpirer et puis bah au final je vais passer cette fameuse zone rouge je dirais bah ce jour-là quoi.
Donc là effectivement bah il y a tout cet acte là et puis bah comme tu le dis en fait tu as entendu parler de PO mais t'es pas du tout au fait de exactement ce que ça va engendrer, de ce que ça va t'espères que ça va améliorer tes performances mais est-ce que tu te dis, bon, maintenant, il faut que j'en prenne une fois par semaine, une fois par mois, ou est-ce que c'est vraiment une fois pour essayer d'améliorer tes performances au championnat de France? Est-ce que tu t'es renseigné un petit peu sur les effets que ça peut avoir et puis sur la manière dont ça peut être détecté?
Non, je vais être très naïve au final, parce que je ne vais pas vraiment me renseigner sur un protocole ou autre. Et du coup, bah, je vais faire cette prise le lundi. Et donc après bah, le mercredi je pars au championnat de France donc en fait après je referme la boîte, je la laisse et puis bon bah voilà, je me dis bon je vais voir si ça marche ou pas déjà et après voilà, je sais pas si je l'aurais réutilisé ou pas au final mais voilà là du coup bah il y a le contrôle antidopage le 27 juin puis je sais pas au final si ça passe parce qu'en fait c'est 3 jours, ça fait 3 jours que j'ai fait cette injection et je me dis est-ce que ça passe, ça passe pas, on verra. Et puis bon, au final, mes performances le 27 et 29 juin, je vois mes watts, je me dis, bah, au final, ça fonctionne pas, quoi. Alors que bon, bah, forcément, bah, plus tard, je vais savoir, on va dire, avec mon contrôle et tout, qu'il aurait fallu que je fasse un protocole et que bah, c'est le PO, c'est pas une prise qui va te faire augmenter tes performances, mais c'est que c'est en semaine qu'il faut faire, quoi.
Ouais. Alors évidemment, avec le recul, tu te rends compte que finalement l'acte que tu as fait, en plus, enfin, il sert à rien d'un point de vue d'amélioration des performances. Et puis là, il y a quand même, alors pour toi, il y a vraiment une succession de choses qui vont mal se passer, même si d'un certain côté, les choses elles se passent parce qu'elles se passent, mais tu participes au championnat de France, il y a un chrono avant la course en ligne, tu hésites à participer à ce chrono. Et jusqu'au dernier moment, tu hésites, tu prends le départ et c'est à l'arrivée de ce chrono qu'il y a le contrôle.
Oui, voilà, on va dire que le chrono, je le faisais vraiment en déblocage pour la route, quoi. C'est vrai que je ne suis pas une spécialiste du contre-la-montre, en plus je ne l'avais pas préparé. Voilà, j'avais une position vraiment pas aérodynamique du tout. Je l'ai eu, une dizaine de jours avant, j'avais été voir mon vélociste pour lui dire bon bah voilà, je suis pas allée sur mon vélo, on remonte la position, mais bon, je vais le faire en déblocage comme ça. Et puis voilà, jusqu'à la veille, au départ, je me dis bon, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Il va faire très chaud, voilà. Et puis bon bah finalement, je prends le départ en me disant bon bah tu fais le chrono en déblocage. Donc voilà, je réalise un chrono qui est, on va dire, dans ma norme au final, parce que je termine 9 ou 10e, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc à mes places de d'habitude, j'ai envie de dire. Donc voilà, je faisais souvent des top 10 au chrono. Donc je me dis, bon, bah, c'est bien pour le samedi. Et puis au final, quand je franchis la ligne, il y a le fameux chaperon qui me court après. Et donc pour me signaler que je suis tiré au sort pour le contrôle, quoi. Et c'est vrai que je me dis, mince, c'est vrai qu'au final... on va dire que de base, voilà, je ne savais pas si je faisais si j'allais participer justement à ce contre-la-montre, quoi. Mmh.
Est-ce qu'au moment où tu vas réaliser ce contrôle, tu réalises réellement à quel point il y a quasiment aucune chance que tu t'en sortes? On a accueilli Jonas Sogi dans le premier épisode dans lequel on a parlé du dopage dans ce podcast. Il est vraiment spécialiste de recherche. Il disait que depuis les années 98-98, quand il y a eu l'affaire Festina et puis qu'on faisait des contrôles antidopage, à l'époque, on détectait les PO peut-être 10 jours après grand maximum. Aujourd'hui, on détecte des traces infimes jusqu'à 60 jours. Donc là, tu avais quasiment...
Même après,
tu n'avais aucune chance de passer ce contrôle. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'en rends compte ou tu te dis je l'ai pris à 3-4 jours, c'est peut-être déjà passé, je vais passer au travers?
À ce moment-là, je me dis trois jours, je ne sais pas trop, parce que c'est vrai que comme je ne me suis pas renseignée, c'est vrai que le doute il s'installe et forcément, quand je fais le contrôle, j'y pense. Hein, et je me dis, est-ce que ça passe, est-ce que ça ne passe pas? Je regarde un peu sur Internet, mais j'arrive pas à trouver vraiment, on va dire, des bases. Je vois des fois que oui, ils arrivent à retrouver, des fois non, enfin... Du coup, je me dis, je ne sais pas. Et puis, je me dis que de toute façon, je demande d'abord au contrôleur dans combien de temps j'aurai la réponse ou pas. Mmh. Et forcément, s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que c'est négatif. Et donc, il me dit que ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Donc c'est vrai que je me dis, de toute façon, je vais être vite fixé, entre guillemets, quoi.
Mmh. Et là, en fait, il y a une succession de choses qui vont arriver. Donc, il va y avoir l'annonce du résultat dans un premier temps. Comment est-ce que ça se passe? Parce que au moment où tu reçois l'appel, le ressenti que j'ai quand j'ai lu ton livre, c'est qu'il y a zéro tact de la part de personne, quoi. C'est que au moment où on t'appelle, on te traite comme une criminelle, en fait. Il y a vraiment plus d'humanité à partir de ce moment-là, dans la façon dont tu es traité.
Peut-être avant d'arriver sur cette question-là, moi j'avais une question complémentaire. C'est donc tu fais ton contrôle, tu sais pas encore si finalement il va revenir positif ou pas. Mais est-ce que dans ce laps de temps, en dehors du fait que tu cherches des informations, que j'imagine que ça te stresse un peu, est-ce que tu te sens coupable de quelque chose? Est-ce qu'il y a une certaine culpabilité qui naît en toi, ou est-ce que au contraire, enfin toutes tes émotions sont complètement mélangées entre il fallait que je le fasse, il fallait pas que je le fasse, je l'ai fait quand même, je vais peut-être m'en sortir, je vais peut-être pas m'en sortir. Est-ce que comment tu te sens en fait à ce moment-là, juste après le contrôle antidopage?
Clairement, je regrette, quoi. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi. C'est un peu, au final, c'est un peu compliqué à expliquer, mais quand j'ai fait cet acte, j'ai essayé de me dire que c'était pas moi vraiment qui le faisais, quoi. De me dire, c'était pas Marion qui a le vélo, on va dire, sacré, qu'on n'y touche pas, etc., quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, mais je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait, en fait, lundi, quoi. Mais pourquoi t'as fait ça? À un moment donné, voilà, t'étais pas bien et pourquoi t'as fait cet acte? Et ça se trouve, au final, ça va tout gâcher par rapport à tout ce que t'as vécu dans le vélo, tous tes souvenirs et puis ton futur aussi, quoi.
Et est-ce que t'as aussi ce sentiment de culpabilité, peut-être vis-à-vis de tes coéquipières, vis-à-vis des autres personnes avec qui tu t'es retrouvée sur la course, de tes concurrentes, des autres filles du vélo?
J'ai pas forcément de culpabilité par rapport à mes équipières ou à mes adversaires parce que au final quand je vois mes valeurs du coup en fait elles sont identiques à mes valeurs, quoi. Donc je me dis qu'au final ça a pas fonctionné et que je suis la même entre guillemets. Mmh. Donc je me dis que j'ai rien volé clairement. Mais après, c'est plus une culpabilité de me dire, bah ouais, si je me fais contrôler, mais que va penser ma famille, que va penser mes amis, enfin mes proches, mon entourage, quoi. C'est plus dans ce sens-là, on va dire. Après, forcément, honnêtement, c'est sûr que si j'avais été championne de France à ce moment-là, au final, c'est clair que j'aurais pas pu l'apprécier. De toute façon, j'aurais été contrôlée positive et tout. Mais sur le podium, sachant que tu as triché et tout, enfin. Au final, je sais très bien que ça n'aurait pas du tout été bénéfique et tu peux pas te dire, bah, même sur le podium, deuxième, troisième, ou si j'avais fait une quelconque performance, bah oui, tu l'as fait avec tes jambes, même si au final la prise n'a pas été bénéfique pour mes performances. Mais voilà, j'ai franchi quand même cette fameuse zone rouge et j'ai voulu tricher, donc j'aurais pas pu, on va dire, profiter de s'il y avait une performance quelconque, quoi.
Et donc du coup, là, il y a 3 semaines qui se passent à peu près, jusqu'au moment où on va t'annoncer les résultats.
Oui, voilà, donc c'est le 18 juillet 2019. Je pense que ça sera l'un des pires jours de ma vie, je dirais. Je suis à la course by le tour, donc c'est en même temps que le Tour de France masculin. On a une étape qui est identique aux garçons, donc là c'est à Pau. Donc voilà, j'ai fait la route la veille le 17 juillet, donc 7 heures de voiture pour arriver sur les lieux de la course. Donc le matin, on va reconnaître le parcours. Donc c'est le parcours du contre-la-montre, bah, que Julien Alaphilippe va gagner avec son maillot jaune. Et donc nous, on a 4 tours de circuit. Donc voilà, le matin. Donc la course, c'est le 19 juillet. Donc on fait la reconnaissance le matin, le 18 juillet. Puis on rentre, il est aux alentours de 13 heures. Et là, je reçois un appel de l'Agence française de lutte antidopage me disant que faut que je regarde très vite mon mail parce que bah, du coup, j'ai reçu une notification, quoi. Et bah, là, je sais très bien que la notification, c'est l'annonce de mon contrôle, quoi. Et là, bah, j'ouvre vite fait ma boîte mail et là, je vois donc que j'ai été contrôlée positive à l'EPO. Donc il me rappelle et bah, là, je suis vraiment désemparée. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'ils me disent, bon bah voilà, de toute façon, le PO, vous avez aucune chance de vous en sortir. Donc voilà, autant avouer. Et puis bah, très vite, ils me disent que bah voilà, il faut que je parte. On est en plein Tour de France. Que bah, si ça s'ébruite et tout, il y a les journalistes qui vont arriver. Et voilà, et en fait, bah, clairement, ils me laissent totalement comme ça, libre à l'abandon, en me disant, bon bah voilà, il faut que vous partiez de votre équipe, que vous l'annonciez à votre directeur sportif, à vos équipières et que vous, en fait, bah, que vous fuyez, quoi, clairement, quoi. Et bah, c'est vrai que là, je suis totalement désemparée, quoi, parce que, bah, on va dire qu'au final, on me laisse clairement à l'abandon. Je leur signale que je suis quand même venue en voiture, que j'ai fait 700 km en voiture. Et donc, en gros, en fait, ils me laissent avec une telle annonce, et toute seule, quoi. Et clairement, bah, ouais, c'est un peu, bah, risquer ma vie. Et c'est ce que je vais faire au retour, quoi. C'est-à-dire que. Bah, le retour, je vais clairement jouer avec ma vie en roulant des fois à 160, 90, en me disant bah tourne le volant, ça sera plus simple parce que bah du coup comment l'annoncer à mes proches que du coup j'ai été contrôlée positive parce que je me suis dopée, quoi. Donc voilà, c'est des, on va dire, des jours de silence. Je dis juste en texto à mes parents que je peux pas prendre le départ de la course by le tour parce que j'ai été contrôlée positive et que je comprends pas, quoi. Et puis bah après voilà, je me tais et voilà, quand au final on fait une faute, on va dire en justice, et ben on nous met en garde à vue ou autre, ou on nous accompagne. Et là, clairement, au final, on m'appelle comme ça, on me laisse avec une bombe, j'ai envie de dire. Et puis bah débrouille-toi, et puis tais-toi, et puis t'es vu comme une pestiférée, donc fuis, quoi.
Ouais, t'es stigmatisé. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, on te dit, va annoncer le résultat à ton directeur sportif. Ton directeur sportif, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est pas forcément l'ambiance de rêve. À ce moment-là aussi, tu es coaché par Franck Alaphilippe, donc le frère de Julien. Et donc du coup, t'as pas envie que ça se sache, parce que t'as pas envie non plus de l'impliquer. Lui, il y est pour rien dans ta décision de prendre de l'EPO, et t'as pas envie qu'il y ait l'amalgame. Et puis, en même temps, je crois que tu reçois un coup de fil de l'UCI qui te dit, mais n'en parlez à personne.
Exactement. Donc voilà, en fait, bah, l'Union cycliste internationale, ils ont peur de cette affaire de dopage, surtout en plein Tour de France, parce qu'ils savent très bien le bruit que ça va faire. Et du coup, bah, je reçois deux appels de l'UCI, donc un en début d'après-midi, juste après la FLD, me disant que voilà, faut vraiment que je parte le plus possible, en me mettant une vraie pression, pour me dire que voilà, ils ont peur que les journalistes arrivent et que ça s'ébruite. Et clairement, après, il me rappelle, bah, quand je suis sur la route, j'ai même pas fait 5 minutes, en me disant, bon, bah, j'espère que vous êtes parti et vraiment n'en parler à personne, ça va se régler en interne. Et voilà, et moi, en fait, bah, je suis très naïve et je me dis, bon, bah, je me tais. Et puis voilà, il y a Franck Alaphilippe, il y a Julien aussi qui est maillot jaune. Donc au final, bah, j'ai pas envie de leur faire de tort. Et je pense que voilà, l'UCI, au final, ces deux appels, en gros, c'est clairement, bon, bah, voilà, ils veulent pas faire un scandale en plein Tour de France médiatique. Et voilà, ils ont déjà assez souffert comme ça de personnes qui s'étaient dopées en plein Tour de France. Et donc, en gros, c'est part. Et en plus, bah, normalement, je devais recevoir justement un courrier de l'AFLD qui devait m'apporter en main propre. Et au final, je serai déjà partie quand ils l'apporteront, quoi. Donc, c'est-à-dire que mes coéquipières vont voir quelqu'un se présenter de l'Agence française de lutte antidopage. Et donc, de base, voilà, j'ai menti à mes coéquipières en inventant une pseudo-prise de sang qui n'était pas bonne. Mais au final, ça va vite s'ébruiter puisque mon directeur sportif, lui, est au courant parce que j'ai dû lui annoncer. Et après, lui, il ne va pas se cacher parce que clairement... En fait, il s'en fiche de moi, quoi. Et puis, il va l'annoncer à mes coéquipières que je me suis fait prendre pour dopage, quoi.
Et moi, j'ai quand même une question. C'est justement, quand la FLD et quand l'UCI te dit clairement, et parlons crûment, mais casse-toi parce que ça va chier pour toi et pour nous, comment est-ce qu'ils peuvent être persuadés que l'affaire va s'ébruiter? Parce que au moment où tu reçois le mail et au moment où ils t'appellent, c'est entre eux et toi. L'annonce de la positivité de ton contrôle, elle n'est pas publique dans un premier temps.
Non, au départ, elle n'est pas publique. Mais bon, après, on va dire que plus de personnes savent cette annonce et plus il y a de risques. Puisque bien après, sûr. Forcément, mon directeur sportif, lui, est au courant. Et aussi, en fait, sur la liste des partantes, moi, du coup, je suis dite not start. En fait, je n'ai pas pris le départ, quoi. Et c'est assez bizarre, quoi. Et il y en a beaucoup qui se questionnent, quoi. Et au final, je vais le savoir que ça va s'ébruiter petit à petit. Franck Alaphilippe, même d'ailleurs, je vais le remercier. Mais à un moment donné, il y a un journaliste qui va lui en parler justement 2-3 jours après, je crois. Et il va m'appeler justement pour me dire que il y a un journaliste qui lui a demandé, qui avait entendu parler de mon contrôle positif, est-ce que c'était vrai ou pas, quoi. Et il va réussir à botter en touche. Et voilà, et en fait, clairement, heureusement, d'un sens, à la fois pour lui, en plein Tour de France, pour pas non plus pénaliser Julien, j'ai envie de dire, puis surtout qu'en fait, ils y sont pour rien, quoi. Moi, j'ai essayé de les protéger, mais malheureusement, c'est compliqué avec les journalistes. Et puis aussi, moi, entre guillemets, pour que me protéger, on va dire, les jours suivants, en quelque sorte, quoi.
Ouais, mais là sur ce moment-là, on le comprend très bien. Il y a plus aucune humanité envers toi. L'UCI, c'est se couvrir pour pas qu'il y ait de scandale pendant le Tour de France. L'Agence française de lutte contre le dopage te traite déjà comme une criminelle. On peut imaginer, dans ton cas, en fait, tu avais pris de l'EPO, mais on peut imaginer qu'il y ait un vice de procédure pour quelqu'un, une ou un athlète, et que, par hasard, il y a un résultat positif qui arrive, mais la personne n'est pas vraiment coupable. Mais à ce moment-là, elle est déjà clouée au pilori, elle se sent déjà exclue du monde du cyclisme, presque exclue de son humanité. Dans le traitement que tu as reçu, c'est très violent.
Ah oui, clairement... c'est un choc émotionnel qui est je pleure tout le temps, je fais des cauchemars et les jours qui s'en suivent sont très sombres, quoi, parce que je me demande comment je vais pouvoir sortir de cette histoire, et puis je me dis que il y a vraiment aucune humanité. Puis ça renforce quand je rencontre la présidente de l'Agence française de lutte antidopage une semaine après mon annonce de contrôle positif, où au final elle aurait fait preuve d'humanité, parce qu'au départ je vais nier forcément cette prise. Mais si elle aurait fait preuve juste un minimum d'humanité avec moi, en fait, j'aurais très vite dit la vérité, parce que je pleurais, j'étais hyper vulnérable. Et quand elle me dit dans notre entretien, non mais de toute façon vous êtes cycliste professionnel, vous gagnez très bien votre vie, et je me dis mais en fait elle est très loin de ce que je peux vivre. Clairement ça me mure dans le silence totalement, et je me dis je vais nier encore le plus possible pour gagner du temps. Mon contrôle positif n'est pas encore sorti dans la presse, mais chaque jour je regarde tous les réseaux et tout, et j'ai forcément cette boule au ventre, parce que j'ai peur que ça s'ébruite, quoi.
Ouais, et puis c'est un petit peu l'étape d'après, c'est qu'il y a un moment ça devient public.
Oui, voilà, parce qu'au départ, je nie, comme j'ai dit. Et puis, je demande l'analyse de l'échantillon B, alors que, je sais très bien que ça va se révéler positif, hein, parce que, souvent, A et B, c'est identique de toute façon. Mais c'est pour gagner du temps. Et donc, l'échantillon B, quand on y va, en fait, on doit aller donc sur Paris pour ouvrir l'échantillon. Et donc là, c'est plus un numéro, mais c'est une tête qu'on met sur un visage, quoi. Et donc à ce moment-là, clairement, je vais là-bas sur Paris le 18 septembre, pardon. Et donc, le 19 septembre au soir, il y a le journal de l'équipe qui me téléphone pour me dire « Bon, bah voilà, Madame Sicot, on a appris votre contrôle positif et demain, ça sort dans le journal de l'équipe. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, quoi ?» Donc, je sais très bien, au final, que le laboratoire, il doit y avoir des personnes qui travaillent avec les journaux pour, bah, du coup, entre guillemets, dénoncer ceux qui ont été contrôlés positifs, quoi. Et là, bah, le 20 septembre 2019, bah, c'est un déferlement dans la presse et mon téléphone n'arrête pas de sonner. Mon entourage, bah, il n'y a personne qui est au courant, au final, hormis mes parents. J'ai envie de dire, et ma famille proche, mais voilà, tous mes amis me demandent ce qui se passe, ils ne comprennent pas. Enfin, voilà, les journaux s'emballent. On parle de Franck Alaphilippe, du coup, qui est mon entraîneur, voilà, qui aurait peut-être, du coup, potentiellement, enfin, qui m'aurait peut-être aidé. Enfin, c'est très compliqué parce que, du coup, bah, moi, je vais mal, mais aussi, je nuis à des personnes. Et ça, c'est ce que je ne voulais pas, quoi.
Ouais, ouais. Et puis là, on a des fois un petit peu l'impression qu'un journaliste, il se fait sa propre histoire et ensuite, il essaye à tout prix de la confirmer, en fait. Donc, il y a beau avoir des démentis, t'as beau dire « Franck, il me donnait mes plans d'entraînement, mais c'est pas lui qui m'a encouragé » ou etc. Il y a des journalistes qui viennent et qui essayent, en posant 4 fois la question, de te faire dire des choses que tu dis pas.
Oui, c'est ça, en fait... Ils ont leur propre idée. Voilà, Franck Alaphilippe, bah, c'est un grand nom. Julien, forcément, bah, c'est un peu la star mondiale du moment. Et donc, en fait, pour eux, bah, le raccourci est vite fait. Franck Alaphilippe, il m'a aidé, du coup, en me donnant des produits dopants. Et peut-être, du coup, il y a un lien avec Julien, quoi. Mais à chaque fois, je leur dis toujours la même chose. Et que, en fait, Franck n'a rien à voir. Et surtout qu'après, Franck, il a arrêté de m'entraîner puisque bah, lui, il était embauché par la Quick-Step, clairement. Et c'est vrai que bah, c'est très compliqué parce que je vois que lui aussi a interrogé dans les journaux et forcément il le vit mal. D'ailleurs, je lui ai écrit un mail après et tout. Et c'est vrai que bah, c'est hyper compliqué parce que je me dis, mais bon sang, ils comprennent rien quoi, au final et ils veulent absolument bah, du coup, faire du buzz alors que clairement il n'y en a pas.
Ouais, ouais. Là, en plus, à ce moment-là, on vit à l'époque des réseaux sociaux et en plus, il y a cette couche-là qui vient par-dessus. Et je sais que y a des messages sur les réseaux sociaux qui ont été aussi extraordinairement violents à ton égard et qui t'ont énormément touché. Tu parles de ça d'ailleurs aussi dans ton livre. Il y a des messages qui, en fait, ça s'avère que l'internaute qui poste ces messages, un exemple que tu donnes, il l'écrit et il l'oublie dans la seconde, quoi, quasiment. Il est là, il est pour participer. On a l'impression que c'est un petit peu cette période du Moyen-Âge où on allait à l'exécution publique sur la place du village. Et puis, on balançait tout ce qu'on avait comme haine contre une personne. Et puis ensuite, on rentre chez soi, puis on passe à autre chose. Mais ce qui se passe pour toi, parce que t'es visé par ces messages-là, ça touche énormément. Et puis, il y a un petit peu cette ambivalence. Je pense que tout le monde hein, peut comprendre ça. C'est-à-dire que Il y a probablement des gens qui te disent « Éloigne-toi des réseaux, supprime tes comptes peut-être, etc. pour te protéger de ça. » Mais d'un autre côté, c'est tes comptes, t'aimerais savoir ce qui se passe et plus tu y vas, plus tu te fais du mal.
Oui, c'est ça. On me dit « Non, regarde pas les messages et tout, mais je peux pas m'en empêcher au final d'aller voir du coup les liens de... » Bah, on va dire de journaux bah, qui sortent sur mon contrôle positif. Et c'est vrai que bah, quand je lis les messages qui sont assassins, mais je me dis, mais c'est pas possible au final parce que, voilà, c'est un, c'est que du sport. Deux, j'ai fait du mal qu'à moi-même. Trois, j'ai pas volé de course. Et voilà, il y a des messages bah, qui me hantent pendant des mois. Brûlez-les là, pendons-là. Enfin, voilà, faut la brûler vive. Ces messages, longtemps, je vais les garder en capture d'écran parce qu'ils vont me marquer, je vais en pleurer. Je vais en faire des cauchemars et je me dis, mais c'est pas possible, comment on peut être aussi méchant? Et clairement, bah, ça va être très compliqué. Et à chaque fois bah, que je lis ces messages, c'est des coups de poignard et c'est des pleurs. Et puis, bah, c'est des minutes et des heures de souffrance, quoi.
Tu disais tout à l'heure que pour toi, c'était difficile d'annoncer ça à tes proches, que le jour de l'annonce de la positivité de ton contrôle, tu t'es contenté d'un simple message à tes parents pour leur dire que tu ne prendrais pas le départ. Comment est-ce que tu annonces ça, justement, dans un premier temps à tes parents, et puis à tes proches, et puis à tes amis, qui sont peut-être un petit peu moins proches, et le jour où tout devient public, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, on va dire que globalement, de juillet jusqu'à octobre, mes proches ne vont pas savoir la vérité, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu une poussière qu'on met sous le tapis. J'en parle pas. Je suis en dépression totale. Hein, j'ai du mal à me lever. Au début, j'enlève tout ce qui peut ressembler à mes photos de vélo, enfin tout ce qui me rappelle à ma passion au final. Et puis bah on va dire que chaque jour je erre tranquillement quoi, si on peut dire ça quoi, parce que bah le poids est de plus en plus lourd à porter clairement. Et voilà, au mois de septembre, voilà, je pense même à mettre un terme à mes jours clairement, parce que je fais une assurance obsèque du coup le 18 septembre pour bah voilà être, que mes parents soient tranquilles entre guillemets, pour qu'ils n'aient rien à payer. Et c'est vrai que bah, quand ça sort le 20 septembre, là, du coup, bah, mes amis, eux, ne le savaient pas, clairement, parce que j'avais que ma famille qui était au courant du contrôle, mais ils ne savaient pas, en fait, bah, que j'étais coupable. Et aussi, bah, les circonstances avec le harcèlement de mon directeur sportif, quoi, j'avais vraiment tout caché. Et quand ça sort dans la presse, bah, là, je nie. Mais par contre, voilà, mon entourage sait que, du coup, j'ai été contrôlée positive. Et puis après, bah, voilà, avec l'assurance obsèque, au final, c'est ma mère qui va l'avoir par courrier. Parce que j'avais oublié de changer l'adresse, pas d'un sens, j'ai envie de dire, heureusement. Et puis voilà, du coup, mes proches vont m'aider, ils vont faire face pour me remonter un petit peu, on va dire, à la vie. Et puis voilà, au mois d'octobre, j'avais pris un avocat, en fait, pour ma défense. Et bah, lui va se renseigner avec un médecin et il va me dire, mais Madame Sicco, je ne peux pas vous défendre. En fait, le PO, c'est une injection. Donc, c'est soit vous qui l'avez faite ou soit c'est quelqu'un qui vous l'a fait. Donc, là, on va droit dans le mur. C'est impossible. Donc, il faut vraiment que vous me racontiez ce qui s'est passé, quoi. Et donc, c'est le 14 octobre. Et là, je passe aux aveux, clairement, bah, pas en face à face avec lui, mais le soir en rentrant à mes proches, à mes amis. Et puis, bah, le lendemain, je renvoie un mail à mon avocat en lui expliquant tout. Et voilà, et au final, ça va me libérer d'un poids pour après ma reconstruction.
Et puis pour organiser aussi peut-être ton plaidoyer sur le fait que, effectivement, tu avoues à partir de ce moment-là que tu as pris de l'EPO, donc que tu t'es dopé. Mais par contre, tu vas expliquer tout le contexte qu'il y a autour, que probablement tout le monde ou presque tout le monde ignorait, c'est-à-dire ces contrats cachés, cette situation de précarité dans l'équipe, ce harcèlement moral. Je veux dire, on serait dans une entreprise, on parlerait de mobbing de la part de ton directeur sportif. Et tout ça, en fait, tu vas le sortir en même temps que tes aveux sur le dopage.
Oui, voilà, je vais vraiment bah, jouer la transparence. Et puis, bah, au final, bah, les réseaux sociaux, entre guillemets, vont me servir à ce moment-là, puisque bah, forcément, avec mon directeur sportif, je discutais par Messenger. Et donc, bah, y a toutes les traces bah, de mes demandes de photos, bah, du harcèlement qui me faisait subir. Et donc, bah, là, je fournis plus de 450 pages de preuves bah, sur le contrat caché, au final, sur tout. Et puis, bah, après, voilà, je donne tout à l'Agence française de lutte antidopage. Je leur donne aussi mon virement bancaire, le produit de PO que j'ai pris. Enfin, vraiment, voilà, je veux jouer la transparence à la fois bah, pour ma défense, parce que je ne veux pas prendre les 4 ans pour ma prise de produit. Parce que, bah, voilà, pour moi, on va dire, une justice, ça doit être au cas par cas. Mmh. On va dire. Et puis aussi, je veux dénoncer justement mon directeur sportif parce que bah, voilà, lui aussi a commis une faute. Et à un moment donné, bah, faut qu'il paye aussi, quoi.
Mmh. Et là, à ce moment-là, il y a une rencontre assez improbable qui va se passer. C'est qu'il y a un journaliste qui a vraiment été assez virulent à ton égard au moment de l'annonce de ton contrôle, qui va revenir vers toi et qui va écouter ta version et qui ensuite deviendra... peut-être une aide pour la suite de ta défense dans cette affaire.
Oui, donc là, on est en 2020 et c'est vrai qu'en janvier, bah, y a Antoine Vaillé qui m'écrit, alors que bah, lui, clairement, on va dire que oui, il a été très virulent contre moi justement à l'annonce de mon contrôle antidopage et en disant que voilà, je mentais, que bah, de toute façon, voilà, j'avais forcément pris un produit, etc. Et voilà, en janvier, quand il va m'écrire, en me demandant, voilà, j'ai entendu parler un peu de ton histoire parce que, voilà, il avait une personne, on va dire, une amie commune qui va lui dire un petit peu bah, le harcèlement, etc. Et du coup, il va vouloir en savoir plus, quoi. Et on va se rencontrer justement bah, 15 jours après. Alors, au début, je suis méfiante par téléphone parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut ? Puis finalement, quand je vais le rencontrer, je vais dire, en fait, je vais faire un coup de poker, quoi. Je me dis, j'attends parce qu'au final, mes proches, eux, sont au courant que j'ai dit la vérité. Mais par contre, bah, toutes les personnes dans les réseaux sociaux et tout, ils sont toujours sur ma première version que bah, je nie. Parce qu'en fait, je dis rien de base parce que j'attends d'être jugée par l'Agence française de lutte antidopage. Et je me dis, bah, j'ai pas envie que ça s'ébruite un petit peu dans les journaux ou dans les réseaux en donnant toutes les causes. Et j'ai envie que ça se règle un peu en interne et après, je parlerai, quoi. Mais au final, bah, les jours, les mois passent. Et voilà, ça fait bah, plus de 6 mois que mon affaire est sortie et rien n'avance, quoi. Et là, je me dis, bon, bah, tant pis, je lui déballe tout. Soit il peut me détruire en donnant toute la version sur les réseaux sociaux, ou soit il me tend la main, quoi. Mmh. Et au final, bah, il va me tendre la main. Et clairement, bah, il va m'aider en rencontrant aussi un journaliste, bah, Thierry Vildaret de Stade 2. Et là, je vais pouvoir passer aux aveux, parce que voilà, je voulais parler une fois, mais après qu'on me laisse tranquille, quoi. Et bah, quoi de mieux, entre guillemets, que bah, Stade 2, qui est, on va dire, un grand journal télévisé sportif, pour bah, du coup, bah, dire tout ce qui s'est passé, quoi.
Mmh. Et donc, du coup, là, maintenant, il y a la vérité qui est publique. Est-ce que l'opinion des gens à ton égard change ? Est-ce que tu sens que sur les réseaux sociaux, les témoignages que tu reçois ou les messages que tu reçois changent ?
On va dire qu'il y a, un peu de tout, quoi. Alors, il y en a, ils sont toujours bec et ongles dopés, donc suspension ou menteuse, etc. Après, il y en a justement bah, qui vont me soutenir, qui vont comprendre. Il y en a au début bah, qui il va leur falloir quelques temps pour du coup assimiler, puis après bah, me soutenir. Mais j'ai envie de dire qu'il y a forcément beaucoup plus de personnes qui me soutiennent qui vont être contre moi, j'ai envie de dire. Puisque forcément, bon, bah, voilà, c'est courageux, comme ils m'ont dit, de passer aux aveux, de dire la vérité. Souvent, bah, ceux qui sont pris pour dopage, on n'entend plus parler après. Et voilà, moi, je joue vraiment la transparente. Alors certes, j'ai mis, entre guillemets, bah, 2 mois vraiment pour les agences. Mais entre guillemets, 2 mois, c'est pas non plus si long. Après, eux, forcément, bah, beaucoup plus long, puisque c'est passé qu'en mars. Mmh. Mais je me dis que voilà, y a beaucoup de monde justement qui vient me soutenir et qui connaissent justement aussi bah, mes valeurs et la vraie Marion. Et certes, bah, j'ai commis une erreur. Après, comme je le dis, hein, je dois payer pour cette faute. Ça, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas envie de ne pas payer. Mais après, voilà, j'ai envie juste qu'on m'écoute et qu'on écoute mon histoire.
Mmh. Et est-ce que c'est le cas ? Est-ce que l'Agence française de lutte contre le dopage t'a écouté ? Est-ce que l'UCI t'a écouté ? Est-ce que tu as eu un jugement déjà ? Est-ce qu'il y a des sanctions qui ont été allégées, prises ? Est-ce que toute cette histoire a été prise en considération finalement dans le traitement de l'affaire qui s'est suivie ?
Alors là, récemment, non, mais au tout début, oui, j'ai envie de dire. Donc en 2020, du coup, je suis passée à la télé au mois de mars. Après, donc, j'ai déposé plainte aussi pénalement. J'avais déposé plainte aussi à l'UCI bah, pour le harcèlement de mon directeur sportif pour qu'il soit suspendu aussi dans le monde du sport. Et donc, j'attendais aussi toujours mon jugement. Le premier jugement qui a eu lieu, donc c'est pour ma sanction. Donc je suis passée seulement en décembre 2020, donc c'est-à-dire... près de 15, ouais, voilà, un an et demi après, donc c'était très long. Donc bah, j'attendais, parce que voilà, EPO normalement est égal à 4 ans. Donc j'ai été entendue par la commission de sanctions, c'est 14 juges. Donc j'ai passé pendant 3 heures à discuter avec eux. Donc voilà, et à ce moment-là, au final, le 5 janvier 2021, j'ai eu la décision et ils m'avaient donné 2 ans. Parce que du coup, bah, voilà, le fait que je joue la transparence, le fait de ma prise unique, qui a été bah, montré avec forcément les analyses de Watt, etc., qui sont quand même facilement décelables si j'avais justement augmenté mes performances. Mmh. Et puis aussi bah, les preuves du harcèlement. Donc voilà, j'étais très heureuse, entre guillemets, bah, d'avoir été écoutée par ces gens-là qui étaient médecins, professeurs d'université. Enfin, voilà, il y avait vraiment de tout type, des anciens sportifs de haut niveau aussi. Et voilà, j'étais super ravie parce que je pouvais reprendre à partir du 19 juillet 2021. Du coup aussi pendant l'année 2021, il y a eu mon directeur sportif qui a été suspendu par l'Union cycliste internationale de 3 ans, donc pour le harcèlement sexuel aussi bah, qui a été avéré, voilà. Et donc ma plainte pénale est toujours en cours à l'heure actuelle.
C'est ça qui est dingue, c'est que l'UCI finalement te donne entre guillemets gentiment que 2 ans de suspension parce que t'as fait une faute, mais quelqu'un qui, et c'est avéré, t'as des preuves, qui t'a harcelé pendant des semaines, des mois, des années, et peut-être que tu n'étais pas la seule, lui ne prend quasiment que la même chose.
Et d'ailleurs, tu n'étais pas la seule, non ? Y a d'autres filles qui se sont jointes à tes accusations ensuite.
Oui, c'est ça, il y a une Américaine qui a eu les mêmes faits du coup dans l'équipe, donc qui elle aussi a déposé plainte aussi à l'Union cycliste internationale. Donc, au final, on était 2. Mmh. Donc, voilà, et peut-être d'autres hein, qui n'ont pas parlé. D'ailleurs, on ne peut pas savoir, au final. Après, j'ai envie de dire, là, au départ, il avait eu plus que moi. Et au final, bah, l'Agence française de lutte antidopage a fait appel de ma propre sanction, sur la commission de sanction bah, de l'agence. Et donc, bah, là, ça vient de tomber il n'y a pas longtemps, le 22 mars. En fait, voilà, j'ai été jugée au Conseil d'État. Donc là, ce n'est pas une justice sportive. Je n'ai même pas été entendue. Et au final, ils m'ont redonné 2 ans. Donc là, je suis resuspendue jusqu'au 22 mars 2024. Donc là, c'est très dur à encaisser. Parce que voilà, j'ai l'impression d'avoir vraiment une injustice. Parce que pour moi, il n'y a pas de justice sportive au cas par cas, clairement. C'est-à-dire que je prends le prix maximum. Alors que voilà, pour moi, en principe, on devrait avoir un taux de sanction totalement différent entre si on a pris un protocole, si on a volé des cours, si on a fait un dopage pendant des années, ou moi qui a fait qu'une prise. Et c'est vrai que c'est très dur, et surtout qu'au Conseil d'État, je n'ai même pas été écoutée. Donc j'ai dû prendre un avocat au pif, clairement, parce que le Conseil d'État, il n'y en a que 100 en France des avocats. Et donc mon avocat, je ne sais même pas comment il m'a plaidé, comment il m'a défendu. Et donc là, je repars à nouveau pour 2 ans de suspension, alors que j'avais repris les compétitions. Et c'est vrai que c'est un gros coup d'acharnement, je dirais, pour moi, quoi.
Mmh. Quels sont les arguments, justement, de la FLD pour avoir fait appel de la sanction qui a été donnée en première instance? Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a été plus lourde? Parce que la première, tu l'as dit, tu as été entendu par des experts, tu as défendu ton cas. Ces experts, qui sont des experts du domaine, se sont exprimés. Quels sont les arguments, justement, qui ont été mis en avant lors de cet appel pour donner une sanction plus lourde?
Les arguments, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas prendre un cas avec son contexte. En gros, c'est EPO est égal à 4 ans, et voilà quoi. Et en fait, ils ne veulent pas qu'il y ait de différence au niveau de différentes histoires, quoi. Et c'est vrai que je ne comprends pas, puisque en termes de justice, normalement, entre guillemets, si on fait un meurtre avec préméditation, sans préméditation ou plein d'histoires, chaque peine est différente, quoi.
Un viol, c'est 30 ans, et le harcèlement sexuel, c'est assimilé à un viol pour certaines juridictions, et pourtant, ton entraîneur a pris un dixième, enfin, ton directeur sportif a pris un dixième de la sanction. Donc, je m'insurge, mais je suis d'accord avec toi.
Pour moi, c'est très difficile, surtout qu'en final, il n'y a pas de partialité, j'ai envie de dire, puisque la présidente de l'Agence française de lutte antidopage est membre du Conseil d'État. Donc autant dire que en fait je partais déjà perdante.
Ouais, donc, c'est un petit peu être juge et parti, quoi. C'est effectivement, j'ai l'impression que ouais, effectivement, ça laisse peu de chance.
Est-ce que tu as un recours contre cet appel?
Malheureusement, non. Enfin, on va dire que j'ai la Cour européenne, mais alors c'est 3 ou 4 ans avant de passer, donc j'aurai terminé ma sanction. Et la Cour européenne, de ce que j'ai compris, ils vont dire juste la loi a été respectée, oui ou non, mais ils n'interviendront pas sur ma sanction. Et de toute façon, c'est dans 3-4 ans, donc ça fera de l'argent dépensé pour rien au final. Donc en gros, j'ai pas le choix d'attendre, quoi.
Surtout que voilà. La forme, mais pas le fond.
C'est ça. Puis l'Agence française de lutte antidopage, en plus, a fait appel contre moi le dernier jour. Donc je me dis, c'est vraiment plein
c'est vraiment de l'acharnement.
Ouais.
C'est ça. Je pense qu'ils veulent que je revienne plus dans le monde du sport, pour moi, quoi.
On va peut-être juste, on va pas s'acharner sur la partie très juridique et très procédurale, mais là, on a l'impression, tu nous dis que c'est un tribunal qui a rien à voir en fait avec le sport. C'est vraiment un tribunal auquel n'importe quel criminel entre guillemets pourrait être condamné. Donc, comment est-ce que c'est possible que, parce que là, c'est clairement une sanction sportive qui est appliquée, hein, c'est-à-dire que t'as pas le droit de participer aux compétitions sportives, mais est-ce qu'il n'y a pas un tribunal administratif au niveau des instances internationales qui devrait prendre ces décisions-là plutôt qu'un tribunal en France, parce qu'on a discuté notamment avec le fait que n'importe quel sportif de n'importe quel pays, on en a parlé dans les derniers épisodes dans lesquels on parlait de dopage dans le podcast, devrait être traité à la même enseigne, et on a l'impression que là, c'est une spécificité française qui fait que tu es suspendu par un tribunal non sportif, mais que ta sanction, elle est appliquée en fait à ta pratique.
Oui, c'est quelque chose qui est, enfin, moi, j'arrive pas à comprendre, quoi, honnêtement. Pour moi, on m'a entendu sur la première sanction, et là, au final, on m'entend pas. C'est une justice, le Conseil d'État qui juge sur des lois, et je suis même pas écoutée. Donc c'est très difficile. Enfin, j'arrive pas à comprendre, quoi. Clairement, pour moi, c'est un sentiment vraiment d'injustice. Et c'est très difficile à vivre, puisque je me dis, mais en fait, là, qu'est-ce qu'on veut, quoi? On veut vraiment me broyer, et voilà. Et du coup, j'ai vraiment enfin, la sensation d'être incomprise. Et voilà, qu'on juge juste comme ça, entre guillemets, pour s'acharner et dans le fait que je ne revienne pas. Puisque là, en fait, en gros, bah, j'ai fait 2 ans. Donc, tout ce que j'ai fait après, à partir du 19 juillet 2021 jusqu'au 21 mars 2022, on me les laisse. Et après, là, je repars pour 2 ans. Donc, en gros, c'est comme si j'avais refait une faute et que je recommence, quoi, entre guillemets, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et, et au final, alors que moi, je pensais, du coup, qu'il y avait une rétroactivité. Et donc, si on me laissait mes 4 ans, bah, que c'était jusqu'au 18 juillet 2023. Mmh. Et non. Donc, en gros, bah, la sanction est encore plus lourde, j'ai envie de dire, presque.
Ouais, ouais, c'est ça. Et d'autant plus incompréhensible que toi, t'as jamais nié le fait que tu t'étais, enfin, tu ne niais pas le fait que tu méritais une sanction par rapport au geste que tu as fait, que tu as accepté le fait d'être suspendu d'activité sportive pendant 2 ans, et que ça arrive un petit peu comme le cheveu sur la soupe après coup, et qu'on sait pas trop d'où ça sort.
Ouais. Ouais, donc c'est bah, clairement, je me dis, voilà, j'ai dit la vérité, j'ai vraiment joué la transparence. Mmh. Et pour moi, je sais pas, quand on dit la vérité, justement, dans des justices, clairement, c'est vu totalement différemment au niveau des peines aussi. Et là, en fait, je prends plein pot, clairement. Et je me dis, mais alors, ça veut dire quoi que, au final, faut pas parler, faut se taire, et de toute façon, on prend la même chose, quoi. Et c'est vrai que. Bah ouais, je me dis, ouais, j'essaye de faire des interventions pour les conférences, voilà, d'essayer d'aider aussi dans le monde du sport, que ça serve. Et puis à la fois, bah voilà, je me dis, en fait, là, je peux pas faire mieux, entre guillemets, et alors j'ai vraiment l'impression de pas avoir été écoutée, quoi. Mmh.
Donc, comme j'ai dit maintenant, au niveau de la justice, on n'est pas dans un podcast de juristes et de tribunaux. Donc, on a bien compris que là, maintenant, il y avait une situation qui est a priori injuste par rapport à la double peine, en fait, que tu subis par rapport à ça.
La triple ou quadruple peine, je dirais même.
Oui, si on prend l'ensemble des événements, effectivement. Moi, je voulais revenir un petit peu à cette période où tu passe du côté obscur du dopage, on va dire, la situation dans laquelle tu étais. Si maintenant, tu peux revenir le jour où ça se passe, soit le jour où tu commandes sur Internet ou le jour où tu vas utiliser le produit, si maintenant, dans l'état d'esprit dans lequel tu es aujourd'hui, tu pouvais parler à la Marion de ce jour-là, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Bah clairement, je lui dirais non, fais pas ça, voilà, tu vas gâcher ton avenir. 2, bah, communique déjà avec tes proches. 3, bah, si t'es pas heureuse à ce moment-là dans ton équipe, et ben arrête, et puis c'est pas grave, redescends plus bas et t'obstine pas justement dans un sport à ce moment-là que tu prends plus de plaisir, quoi. Et 4, surtout, je dirais la base essentielle, c'est que bah Marion, elle existe autrement qu'en termes cyclistes, quoi. Il y a plein de belles choses à côté aussi, et qu'il faut avoir un équilibre clairement entre la vie de tous les jours et la vie sportive, quoi. Chose que j'avais pas, quoi. Mmh. Et donc, enfin, chose que je n'arrivais pas, quoi, en tout cas.
Maintenant, tu as cet équilibre, tu as retrouvé cet équilibre.
Oui, voilà, c'est clairement déjà aussi cette histoire m'a fait grandir aussi clairement, parce que forcément, faut faire face, faut parler, faut se reconstruire aussi, faut avancer clairement. Et voilà, je suis quelqu'un, avant j'étais un peu introvertie, et maintenant je suis beaucoup plus ouverte, beaucoup plus communicative, et c'est vrai que je suis mieux aussi dans ma tête et dans ma peau, quoi. Et du coup cette histoire, entre guillemets, m'a permis de grandir et d'être plus forte, et donc c'est quelque chose au final, certes, hein, je vais pas dire que j'en suis fière de m'être dopée, loin de là, puisque ça restera quand même le jour le plus moche, je dirais, de ma vie, clairement. Mais j'ai envie de dire que quelque chose, entre guillemets, de négatif, j'ai réussi à avancer avec. Et puis voilà, de toute façon, ça fait partie de ma vie, j'ai envie de dire. C'est comme une tâche sur un tableau, quoi. Donc il faut que j'avance avec, et que, entre guillemets, que j'avance en faisant d'autres choses, et puis en se servant de ça pour être plus forte et pour me donner d'autres défis ou d'autres projets, quoi.
Et ça, en fait, ça manque pas. On en parlera peut-être juste en fin de ce podcast. Hermano, tu voulais réagir par rapport à ce que vient de dire Marion ?
Non, je voulais justement te demander, et justement, quand on se reconstruit après tout ça, qu'est-ce que tu mets en place ? Quel est l'avenir que tu vois à court ou moyen terme ?
La première chose que j'avais mis en place, du coup, c'était mon livre, hein, du coup, Harceler, Dopé, mais de retour. Ça a été vraiment un livre thérapie pour vraiment lâcher tout ce que j'avais. Et puis, puis là, actuellement, voilà, j'ai des projets. J'ai ma boîte de coaching, du coup, qui est une boîte privée où j'entraîne des triathlètes, des cyclistes, des coureurs à pied. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de développer, à la fois avec des stages aussi cyclistes. Et voilà, j'ai envie vraiment de partager, clairement. Et voilà, au final, la Marion qui était un petit peu introvertie, j'ai envie justement que, comme là, je suis beaucoup plus ouverte et beaucoup plus communicative, j'ai envie de partager mon expérience à la fois de sportif de haut niveau, à la fois aussi du coup de ce qui s'est passé, clairement, et d'aider justement les plus jeunes, les éducateurs. Voilà, je fais des fois des conférences ou autres. Et c'est vrai que ça, c'est des projets qui me tiennent beaucoup à cœur.
Et donc du coup, tu disais que tu rebondissais avec des défis. Il y en a déjà eu un certain nombre qui se sont passés au cours des derniers mois ou en tout cas sur l'année 2021. On est avec Hermano à la base des triathlètes et c'est vrai qu'on aime bien parler de triathlon. Tu as fait l'Embrunman et qu'est-ce qui t'a amené en fait à passer du cyclisme au triathlon et à te lancer le défi d'un triathlon longue distance?
Alors, on va dire que le triathlon, ça m'a toujours un petit peu titillé, quoi. Clairement, en fin de saison, souvent de vélo, j'en faisais quelques-uns. Et c'est vrai que ça me plaisait, j'aimais bien cet effort. Bon, je suis très nulle en natation, mais vélo, course à pied, voilà, j'aimais bien. Et j'aimais bien aussi cet effort du fait de ne pas avoir cet abri et pas avoir cet aspect tactique. C'est-à-dire que moi... En tant que cycliste, voilà, j'aimais bien quand ça grimpait parce que forcément, ça frottait moins. Parce que voilà, j'aime pas trop les contacts dans le peloton. Et des fois aussi, sur certaines courses, j'étais un peu frustrée parce qu'au niveau tactique, des fois, c'est pas forcément le plus fort qui gagne, quoi. Mmh. Et clairement, voilà, quand j'ai eu le 5 janvier 2021 la décision que j'avais que 2 ans et que je pouvais reprendre le 19 juillet 2021, je me suis dit voilà, Marion, c'est parti. J'avais toujours envie et rêvé de faire un Ironman et je me suis dit direct, inscris-toi à l'Embrunman. L'Embrunman, c'était une course qui me faisait rêver, que j'avais déjà vue à la télé, entendu parler. C'est une ville, je pense, qui vit pour son triathlon, clairement. Et dès le 6 janvier, je me suis inscrite là-bas.
Ah ouais, il y a la française.
C'est un peu ça, ouais. Et dès le 6 janvier, j'étais inscrite. Et clairement, je pense que j'ai jamais été autant obsédée par une course, quoi. J'ai regardé tous les reportages, je regardais justement des vidéos, des conseils, j'étais inscrite sur les groupes des réseaux sociaux et je me suis entraînée vraiment à bloc pour cette course parce que je me suis dit, on m'a privé entre guillemets pendant 2 ans de compétition, ce qui était normal, mais justement là, je vais revenir plus forte et je vais me faire plaisir. Et moi, je suis quelqu'un de très endurante et donc je savais que ça allait me plaire. Et donc, je suis arrivée à l'Embrunman. C'était mon premier, forcément. J'espérais quand même un top 5 chez les femmes. Après, moi, mon plus gros défi, entre guillemets, c'était de sortir de la natation les 3 km 800. Et après, je savais très bien que ça allait être du plaisir sur le vélo. Et la course à pied, après, c'est les derniers kilomètres sont compliqués. Mais je savais très bien que j'allais prendre un plaisir fou. Et c'est vrai que du coup, je termine deuxième. Et c'est quelque chose d'extraordinaire pour mon premier Ironman. Après, je m'étais préparée vraiment très dur. Je m'entraînais entre 25 et 40 heures par semaine. J'avais repéré vraiment le parcours à Embrun. Ça faisait 15 jours que j'étais sur place. Donc, le parcours vélo, je le connaissais par cœur. Forcément, quand je suis sortie de la natation, après, je suis sortie assez loin. Il y avait pas mal de vélos en moins, ça c'est clair. J'ai pas eu de mal à trouver mon vélo. Mais après, j'ai fait forcément que de doubler. Et puis, j'ai géré. Et puis, il y a la foule aussi qui m'a portée. Et j'ai adoré, en fait, parce que c'est un effort avec toi-même, avec toi-même, entre guillemets, à lutter avec tes petits démons qui te disent « allez, ralentis, là, t'as mal aux jambes, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu serais mieux sur un canapé ?» Enfin, plein de choses comme ça. Et puis, quand j'ai commencé le marathon troisième, et puis après, il y a la Belge devant qui a explosé parce qu'il faisait très chaud, il faisait plus de 40 degrés. C'est vrai que je me suis retrouvée deuxième et puis la foule m'a portée. Clairement, j'avais des frissons, j'avais ma famille, j'avais des amis présents. Et c'est vrai que j'en garde un excellent souvenir. Et je voulais y retourner forcément cette année pour essayer de le gagner. Je savais très bien qu'il fallait que je bosse la natation et j'étais en train de la travailler. Mais je me dis que je reviendrai du coup en 2024 pour essayer de gagner l'Embrunman parce que je pense que je suis tombée amoureuse de cette course, quoi.
magnifique retour d'expérience, en tout cas ça donne envie.
Justement, quand tu dis que tu aurais voulu revenir cette année mais malheureusement tu pourras pas, c'est-à-dire que la suspension que tu as prise, c'est pour toutes les compétitions sportives, toutes disciplines confondues?
Oui, c'est ça, c'est vraiment tous les sports. Si je voulais m'inscrire à la pétanque ou au ping-pong ou autre pour faire une compétition comme ça, je pourrais pas, quoi. En fait, du moment qu'il y a un classement, je n'ai pas le droit de participer à une compétition. Donc, c'est-à-dire que là, bah, je suis privée de compétition, donc bah, je continue à m'entraîner. Mais bon, quand tu es compétiteur, c'est un peu compliqué de te dire « ouais, tu t'entraînes pour 2024 ». Quoi. Donc, forcément, bah, il va y avoir des hauts, des bas. C'est pour ça aussi que j'essaye de me lancer des défis. Mais je me dis que bah, vraiment, on va dire que c'est 2022 transitoire, du coup, pour que 2023, je me prépare à bloc. Et le 23 mars 2024, je serai au départ d'une course, ça c'est sûr et certain. J'ai déjà regardé un petit peu en Espagne, en Afrique du Sud ou autre, pour du coup profiter à fond. Quoi.
Mmh. Alors, quand on dit du transitoire Marie-Ancico, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Hein, parce que après l'Embraman, l'année passée, il y a eu un record de dénivelé positif en 24 heures sur l'Alpe d'Huez. Donc ça, c'est le défi que tu as fait l'année passée. Combien de fois l'Alpe d'Huez en 24 heures?
Alors, je n'ai pas grimpé jusqu'en haut parce qu'on cherchait vraiment le dénivelé positif. Uh-huh. Et du coup, j'allais jusqu'à Huez les 8 premiers kilomètres, une partie de la journée. Et après, je me suis vraiment accentuée jusqu'à la garde où c'est 3 kilomètres à 10%. Et donc, je l'ai fait 50 ou 60 fois. Quoi. Donc voilà, c'était plus vraiment aller chercher du dénivelé positif. Après, bon, bah, y a eu un orage qui m'a arrêté pendant 2 heures. Sinon, j'aurais pu faire dans les 17 000. Donc là, je réalise 15 339 mètres de dénivelé positif, donc, bon, ce qui est pas mal et c'est le record du monde est battu. Quoi. Donc voilà, en tout cas, c'était une belle expérience. Quoi.
Bah, les personnes qui savent ce que c'est un mètre de dénivelé positif apprécieront l'effort et l'exploit que ça représente. Et puis, bah, la deuxième chose, c'est année de transition 2022. Tu nous prépares un petit défi pour le mois d'août.
Oui, c'est ça. Bah, là, je vais bientôt avoir 30 ans le 24 juin. Et donc, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, un compétiteur, il y a besoin de challenge. Et donc, je me suis dit, bon, bah, allez, pourquoi pas faire un Tour de France, le Tour de la France. Et du coup, j'ai regardé un petit peu. Puis, bon, j'ai vu que le Tour de France 1930, il faisait vraiment le Tour de la France global. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, j'ai 30 ans, donc pourquoi pas le faire. Et donc, du 1er au 21 août, je vais réaliser le Tour de la France avec les 21 étapes que faisait le Tour de France 1930. Donc, c'est un peu plus de 5000 kilomètres. Et pas mal de dénivelé positif. Après, il y a des grosses étapes hein, de 300, 400 kilomètres. Donc, voilà, ça va être un beau challenge. Et du coup, ouais, ça va être une expérience, je pense, extraordinaire. Quoi.
Mm-hmm. Et puis, c'est un challenge que tu souhaites partager avec d'autres personnes parce que j'ai vu que tu as lancé sur les réseaux sociaux en fait, un appel. Et si on veut participer avec toi à une ou une partie ou plusieurs étapes, eh bien, tu vas communiquer en fait, ton parcours, tes étapes, etc. Et puis, on pourra te rejoindre pour toute ou partie du parcours.
Oui, voilà. Alors, les parcours, justement, sont depuis peu sur mon site internet marioncico.fr. Et donc, dessus, il y a tous les liens Open Runner avec tous les parcours, avec aussi les horaires qui sont à peu près estimés. Et donc, bah, le but, voilà, c'est des fois de partager un bout de route, un col ou voilà, vraiment discuter avec des personnes. Et c'est vraiment voilà, partager justement cette aventure un petit peu avec le monde du vélo, on va dire.
Mmh. Eh ben écoute, en tout cas, on espère que tu retrouveras beaucoup de personnes avec toi pour partager ce défi sur les routes. De mon côté, mon mois d'août me le permet, ben je viendrai à ta rencontre sur une étape qui passerait pas trop loin de la Suisse, si c'est le cas. Donc, ce sera avec grand plaisir. Et puis, tu l'as dit, ben, on retrouve des informations sur toi sur le site marioncico.fr pour avoir toutes les informations par rapport à ce défi-là.
Super. Bah, moi, je te demanderai juste un service. Je ferai l'acquisition de ton livre et puis j'essaierai de venir te croiser un de ces quatre et j'aimerais bien avoir une dédicace. Tu vois, parce que ton témoignage m'a énormément touché ce soir. Je dois avouer que j'ai pas pour habitude de préparer les épisodes avec les invités justement pour me mettre dans l'état d'esprit de nos auditrices et de nos auditeurs et ne pas être biaisé par l'histoire que notre invité va raconter. Et donc là, j'ai vraiment été touché et je te remercie de partager tout ça, non seulement avec nous, mais aussi avec les auditrices et les auditeurs, parce que je pense que ton témoignage est nécessaire, non seulement pour toi, mais aussi pour se rendre compte que bah, tout n'est pas rose dans le milieu du sport. Mmh.
Moi, c'était un plaisir.
Vraiment. Moi, je voulais dire que le livre m'a énormément touché, m'a énormément bousculé dans les croyances que j'avais par rapport au monde du sport sport féminin que je connais peu finalement et que tu exposes de manière très, 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 très brute, très, très nette au travers de ton ressenti. On ressent énormément d'émotions quand on lit ton livre. Je le recommande vraiment à toutes les auditrices, tous les auditeurs. harcelé, dopé, mais de retour de Marion Sicot. Vraiment, ça vaut la peine de lire cette histoire. C'est vraiment bouleversant. Et moi, je te remercie d'avoir mis ça sur le papier parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur une réalité que je ne connaissais pas.
Bah, c'est avec plaisir, quoi. C'est vraiment un livre, comme j'ai expliqué, un thérapie où vraiment je joue la transparence sur mon vécu, sur mes faiblesses, sur ma vie. Hein. Et puis bah ouais, je me suis dit que si ça peut servir aussi en termes d'expérience, bah pour tout le monde, j'ai envie de dire, ouais, ça si ça peut servir, c'est toujours important, quoi.
Merci beaucoup Marion d'être venue partager tout ça dans notre podcast. C'était un plaisir de te recevoir ce soir, un vrai plaisir, un honneur vraiment. Et plein succès pour tes défis futurs, pour ce Tour de France de 1930, pour tes 30 ans. J'espère que ce sera un succès. Et puis bah, comme je l'ai dit, si l'occasion se présente... Je t'accompagne volontiers sur quelques kilomètres. Je ne sais pas si je tiendrai l'allure très longtemps, mais en tout cas, ce sera un plaisir d'essayer de le faire pendant quelques kilomètres.
Oh, bah non, mais je n'irai pas très, très vite. Et puis, ça sera vraiment un partage. Voilà, après, j'ai le compte Strava aussi où je mettrai les parcours. Voilà, s'il y a des curieux, il ne faut vraiment pas hésiter, quoi. Ou m'écrire.
On mettra tout ça en lien, en tout cas, sur l'article qui accompagnera cet épisode du podcast. Et puis on invitera les auditeurs à aller consulter ces références, ce site internet et puis les parcours que tu vas réaliser. Même si c'est pas forcément pour te rejoindre, parce que c'est pas des cyclistes, ça vaut la peine d'aller jeter un œil parce qu'en 1930, le Tour de France c'était pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. La longueur des étapes c'était pas pareil et voilà, il y avait pas vraiment de transfert en train ou en avion entre l'arrivée d'une étape et le début de la suivante. On faisait vraiment le tour de la France.
C'est ça, oui. Il y avait vraiment aucun transfert, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est une sacrée aventure avec des grosses étapes. Et je pense que bon, bah, j'espère que le temps sera avec moi. Mais en tout cas, c'est sûr que bon, bah, il y aura des moments difficiles entre guillemets. Mais je pense que je vais voir du paysage, en tout cas.
Ben, plein succès pour ton challenge. Merci encore d'être venu dans le podcast. C'était un plaisir.
Ben, merci à vous, en tout cas.
Merci
Marion. Ciao.